Europe 1,
16h-18h, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures de bonne humeur et de découverte pour vous, de stress et de larmes pour eux. Chaque après-midi, c'est une ambiance de western qui plane dans la rédaction d'Europe 1 depuis que les journalistes s'affrontent pour le titre de chroniqueur du jour. Qui scalpera qui aujourd'hui? Vous votez via Twitter pour le sujet qui vous intéresse le plus. À mes côtés, hors compétition, et ça vaut mieux pour les autres car elle a la gâchette facile, ma complice, ma Calamity Jane, excellente au tir de précision.
Ah oui, je te vois.
Bonjour les Baroques.
J'aime bien parce que vous faites la gestuelle avec.
Tu sais, on est filmé. Et moi, vous savez, je suis vraiment un showman à l'école américaine.
J'ai
fait Sciences Po et Broadway en même temps.
J'ai bien entendu et bien compris. Bonjour à tous.
Tout à l'heure, vous nous direz ce qu'on regarde à la télé ou sur nos écrans. Mais d'abord, je vous présente notre invité d'honneur cet après-midi. L'appellation auteur à succès est un euphémisme pour lui. Avec 30 millions de livres vendus par le monde, il est tout simplement un des auteurs français contemporains les plus lus. Sa carrière a explosé en 1991 avec son roman culte Les Fourmis. Aujourd'hui, Eva, il nous revient plus passionnant que jamais.
Avec sa petite chatte.
Oui, son roman dont l'héroïne est une chatte. Il faut un petit peu développer, sinon on s'en sort pas. Sa Majesté des Chats. Bonjour Bernard Werber.
Bonjour et miaou à tous.
Miaou à tous. Sa Majesté des Chats est la suite de votre roman écrit en 2016, Demain les Chats. On retrouve toute la petite bande qui s'était réfugiée à la fin du tome 1 sur l'île aux cygnes. Il y a des humains, des chats, alliés dans une guerre féroce contre les rats qui ont envahi Paris après un épisode de guerre civile puis de peste. On retrouve la chatte Bastet, l'héroïne bien décidée à sauver le monde, Nathalie, sa maîtresse, qu'elle appelle sa servante, on va y revenir, et Pythagore, un chat un peu spécial puisqu'à la suite d'une expérience scientifique, lui a été greffé sur le front un troisième œil qui en réalité est une prise USB reliée à son cerveau avec laquelle il peut se brancher sur le net et ainsi accéder à toutes les connaissances. Ma première question est simple, est-ce que vous pouvez me filer le 06 de votre dealer? Comment on reçoit beaucoup d'écrivains ici, mais en termes d'imagination, comment naît une histoire comme ça?
C'est déjà en observant ma chatte, si
c'est
je peux
vrai.
Dire. Et il m'a toujours semblé que cet être était une sorte d'extraterrestre qui me regardait, qui était installé chez moi. Et puis j'ai essayé de la comprendre. Et puis à un moment... je vais vous dire, c'est l'affaire du Bataclan. J'avais commencé un autre livre qui s'appelait L'homme de Milan sur l'immortalité. Puis quand est arrivé le Bataclan, je me suis dit, il faut que j'apporte un point de vue autre, quelque chose de différent, parce que tout le monde était en train de monter en passion et on ne cherchait pas des solutions, on cherchait juste une sorte d'émotionnel. Je me suis dit, tiens, que penserait un chat qui assiste à un attentat terroriste? Il se dirait juste, tiens, les humains sont en train de s'auto-détruire. Donc maintenant, le temps des chats est venu. C'est-à-dire qu'il ne ferait pas une analyse qui est gentil, qui est méchant. Il se dirait juste, les humains font quelque chose de très bizarre qui est contre leur intérêt.
On va parler de Sa Majesté des Chats, mais d'abord Bernard Werber, je vous présente les forces en présence aujourd'hui. À ma gauche, vous aurez certainement de la tendresse pour lui, puisqu'il est ce que vous étiez avant de devenir une star de la littérature, à savoir un journaliste scientifique. Il dirige la revue Ciel et Espace, et hélas, n'ayant pas autant de prédispositions littéraires que vous...
La poule qui mue aussi, ce qui est une contrepétrie célèbre.
Oui,
la
oui,
poule qui mue.
Oui, effectivement. Il est resté, et c'est mieux pour tout le monde, journaliste scientifique. Bonjour Alain Siroux.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alain, on y a tous pensé un soir de Saint-Valentin. Aujourd'hui, vous nous expliquez comment on fait pour donner le nom de sa femme à une étoile.
Oui, ou son propre nom, parce qu'il y a certains...
parce que vous êtes mégalo, ça dépend des gens. Oui.
Voilà, c'est la chronique, évidemment, que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est comment décrocher son nom dans les étoiles et est-ce que ça a du sens?
À ses côtés, Bernard Werber, son best-seller, La vraie vie des héros aux éditions Vuibert, s'est vendu à seulement 762 exemplaires de moins que Les Fourmis. On me signale en régie qu'il s'est vendu à seulement 762 exemplaires tout court. Il est l'expert littéraire d'Europe 1. Nicolas Caro, vous
mais
le connaissez.
Mais je l'ai lu, il est vachement bien son
c'est
livre.
C'est vrai, il est vachement bien. Vous faites partie.
Super idée.
Oui, vous avez le numéro 761, je crois. Hier, Nicolas, on peut le dire, la victoire vous est passée sous le nez de manière très agaçante, puisqu'à 1% près, vous aviez le vote du public. Heureusement, l'émission n'a pas été diffusée. Vous avez été sauvé par l'actualité, si on peut dire. Avec quel sujet allez-vous mettre tout le monde d'accord aujourd'hui?
Eh bien, justement, Bernard Werber a écrit un livre culte, Les Fourmis, qu'il est bon de lire quand on est adolescent. Ça n'empêche pas de le lire plus tard, et au contraire, ça fait une deuxième lecture avec un autre niveau de lecture. Mais moi, je vais vous parler de 4 autres romans cultes comme ça, qu'il est bon de lire adolescent et qu'on peut relire ensuite.
Voilà pour le programme. L'équipe est sauvage, c'est parti.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
Une équipée sauvage ou un animal domestique va occuper une place prépondérante cet après-midi, c'est le chat, vous l'aurez compris. Bernard Werber, vous publiez Sa Majesté des Chats chez Albin Michel, la suite des aventures de Bastet qui explique dès la quatrième de couve, alors ça annonce la couleur, elle dit « Un jour, vous les humains, vous comprendrez que nous les chats devons prendre votre place, alors moi Bastet, je serai votre reine ». Des fourmis aux chats, vous avez toujours aimé vous mettre dans la tête des autres êtres vivants, mais finalement pour mieux nous comprendre, nous les humains, j'imagine.
Oui, parce que finalement, sinon on tourne en rond avec une pensée humaine qui fait parler de gens qui regardent des gens. Il y a un moment, faire un petit pas sur le côté et regarder comment d'autres êtres non humains pourraient nous analyser, ça me semble vraiment une sorte d'acte de philosophie intéressante. C'est une manière aussi de sortir du jeu pour comprendre le jeu.
Ça fait penser, Eva, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Non, je sais pas,
ça me fait penser à La Fontaine, aux fables de La Fontaine, en fait, utiliser les animaux pour, comme un miroir de nos propres sentiments. Et...
Exactement, si ce n'est que moi je prends les animaux tels qu'ils sont réellement. C'est-à-dire, je
et comment vous pouvez savoir
parler.
Tels qu'ils sont réellement. Comment vous pouvez savoir qu'un chat pense telle ou telle chose. C'est ça qui est fascinant. Communiquer avec eux, Bernard Werber.
Je vais aller voir des biologistes, je vais voir des scientifiques et je leur demande comment fonctionne la pensée des animaux. Et j'essaie d'être le plus fidèle possible aux informations réelles. Donc pour les fourmis, j'essaie vraiment de comprendre comment fonctionnent les communications des fourmis. Et pour les chats, j'ai vraiment essayé de comprendre comment fonctionnent les chats. Après, pour que le lecteur puisse comprendre, parce que j'écris en français, donc ma pensée de chat est traduite en langage français. Mais j'essaie en tout cas d'avoir le même niveau de détachement que peut avoir un chat.
Oui, parce que vous êtes toujours resté journaliste scientifique quelque part. Il reste ça chez vous dans votre livre. Il y a au-delà de l'histoire.
Parfait, hein.
Vous placez toujours des incises issues de votre encyclopédie du savoir relatif et absolu. Il y a des passages qui sont des explications factuelles au-delà de l'histoire, au-delà de la romance.
Par exemple, le fait que la ronronthérapie.
Qu'est-ce que la ronronthérapie ?
C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que le ronronnement des chats nous faisait du bien et ressoudait les os qui étaient brisés parce qu'ils sont dans une vibration basse qui nous apaise.
Il faut mettre le chat sur soi ?
Mais il vient tout seul. Il y a une chose fantastique que fait réellement le chat, c'est qu'il perçoit, je pense, par les odeurs de notre sueur quand on ne va pas bien.
Ah oui, il se rapproche de nous, c'est vrai.
Il se rapproche de nous. Oui. Et en plus, il se met à l'endroit où on a mal. Et là, il se met à ronronner.
C'est vrai.
Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas inventé. Ce n'est pas de l'ordre du fantastique, ce n'est pas la science-fiction. Ouais. C'est toute personne qui a un chat a dû constater ça aussi, je pense.
Depuis Les Fourmis, il est un des auteurs français les plus lus au monde. Il revient avec Sa Majesté des Chats. Bernard Werber nous accompagne jusqu'à 18h.
Europe 1.
L'équipée sauvage continue, et si l'adolescence peut être une période délicate, complexe à gérer pour les parents, confrontés à des déclarations aussi définitives que
« J'en ai rien à foutre, les parents, c'est tous des connards. De toute façon, on en a marre de la France, on va fuguer. On va partir sur Strasbourg. »
Oui, c'est pas facile l'adolescence pour nous parents, mais l'adolescence est aussi une période merveilleuse, car synonyme de lecture fondatrice. Nicolas Caro nous dresse la liste des romans les plus cultes des ados. À tout de suite.
L'équipée sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
L'équipée sauvage continue, et quand j'ai imaginé ce qui devait être un championnat rieur entre les meilleurs journalistes d'Europe 1, je n'imaginais pas ouvrir une telle boîte de Pandore. Déjà, le côté rieur a très vite complètement échappé à la plupart des journalistes qui n'ont plus qu'une seule obsession, gagner à tout prix. Depuis, c'est Sarajevo dans l'Open Space. Tout le monde est à cran, à fleur de peau, et c'est dans cette atmosphère déjà électrique qu'Eva Rock, dite la Marcel Béliveau du Vieux-Nice, a l'idée de faire des canulars à nos journalistes en compétition, comme ce pauvre Nicolas Caro qui en a fait les frais au moment du verdict hier.
Nicolas Caro, hein.
Ouais.
34%. C'est Anne Le Gall avec 35% qui remporte les...
Oh, mais c'est dégueulasse.
On est d'accord, Nico, c'est vraiment dégueulasse. Mais tâchez d'oublier ça, ta famille.
Vicieux.
Ça devrait être possible, en plus, vu que l'émission n'a pas été diffusée. Donc finalement, le classement est resté le même. Cet après-midi, vous nous parlez, Nicolas, des livres cultes de l'adolescence, Les Fourmis.
Eh bien, bien sûr, on commence par Les Fourmis, écrit par Bernard Werber en 1991. Et moi, c'est un roman que mon frère m'a passé quand j'avais 13-14 ans. Et c'est souvent comme ça avec les livres cultes. C'est quelqu'un que vous aimez bien qui vous le donne et qui vous dit il faut vraiment lire ça. Et donc, Les Fourmis, ce qu'il y a d'exceptionnel, je vous rappelle l'histoire. Donc, il y a d'un côté le monde des humains avec le héros qui s'appelle Jonathan Wells, qui est le neveu d'Edmond Wells, qui est l'auteur de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, qui est dans pratiquement tous les livres de Bernard Werber. Et puis, de l'autre côté, il y a le monde des fourmis, alors avec les héros qui sont 103 683e, qui est une fourmi rousse, et 327e, qui est une fourmi mâle. Et en fait, c'est ça ce qui est génial, c'est qu'on se retrouve dans ce monde des fourmis complètement inconnu, un peu mieux maintenant grâce à Bernard Werber, mais à l'époque, on n'avait jamais entendu parler de ces communications, de cette société incroyable des fourmis, de milliards de milliards d'habitants. Et voilà. Et ça ouvre un monde, et c'est ça, un livre culte, ça ouvre un monde, ça ouvre de nouveaux horizons. C'est exactement la définition. Et en plus, ce qui est génial chez Bernard Werber, c'est qu'il donne des petites astuces, il y a des idées comme ça. Et par exemple, sur la quatrième de couverture des fourmis, je me souviens, c'est écrit « Le temps que vous lisiez ces lignes, 700 millions de fourmis seront nées sur
oui,
la planète. » Et alors, il propose une énigme aussi que je vous propose maintenant, on la révélera peut-être à la fin de l'émission, c'est comment faire 4 triangles équilatéraux avec 6 allumettes. Voilà, je ne vous dis que ça. Essayez chez vous.
Quatre
on en reparle
triangles.
Sans coller. Quatre triangles équilatéraux avec six allumettes. Comment on fait? Voilà. Alors, il y a d'autres livres cultes dans le genre qu'on peut lire quand on est ado. Qui
moi,
sont
je m'en
importants.
Fous, je vous écoute plus, je fais les mini.
Mais moi, je vous écoute, Nicolas. Allez-y.
Il y a Boris Vian, bien sûr, avec L'écume des jours. Pourquoi? Oui. Parce que je pense que c'est une bonne entrée en matière dans ce qu'est la littérature. Parce que chez Boris Vian, il y a toujours un petit décalage, un tout petit soupçon de surréalisme et surtout une poésie qui ne se voit pas. C'est-à-dire, ce n'est pas des vers ou des alexandrins, etc. C'est de la poésie dans ce qu'elle a de plus pur, c'est-à-dire la poésie de la vie, la poésie des petits gestes, la poésie comme ça, justement de ce petit décalage. Vous savez, il y a le piano cocktail qui est un piano
qui
permet
fait
de faire un cocktail en fonction de son
joue,
émotion.
C'est
ça, c'est hyper poétique. Et sans en avoir l'air, et ben on comprend ce que c'est que la poésie et la littérature. Il y a aussi Dumas de Monte Cristo qui est hyper intéressant de ce
Monte
point de vue-là.
De Dumas plutôt.
Monte Cristo de Dumas, pardon.
Parce que l'inverse, je suis pas au courant de ce livre-là.
Il est tellement iconique que c'est pratiquement lui l'auteur maintenant, Edmond Dantès. Donc c'est génial ça parce que on peut le lire quand on est adolescent, on a un super roman d'aventure avec tout l'épisode au Château d'If où Edmond Dantès se transforme pour devenir Monte Cristo. Il y a une évasion extraordinaire et tout ça. C'est un super roman d'aventure. Il y a de la vengeance, il y a de l'action et tout ça. Mais quand on le relit après, vers 30 ans, on se rend compte à quel point c'est un roman noir, vraiment terrible en fait, et qui nous interroge sur nous-mêmes, sur notre façon d'être et de toujours avoir du ressentiment et de la rancœur et essayer de... Voilà, c'est ça la morale de l'histoire, c'est de se dire la vengeance ça sert à rien. Bon, c'est deux niveaux de lecture qui sont super importants et qui peuvent être fondateurs. Voilà.
Ah ben voilà, cette belle chute Nicolas, bien travaillé. Toute la chronique était bien sur
non,
la chute.
Non, j'en ai un autre, mais je me dis qu'on n'a peut-être pas le temps. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur d'Harper Lee.
Oui, c'est vrai.
C'est vraiment génial.
Bernard, vous rajouteriez un titre à cette liste?
Oui, Des fleurs pour Algernon.
Ah oh, c'est beau
de
ça.
De Danny Kaye, qui est l'histoire de quelqu'un de bête qui devient intelligent. Et ça m'a l'air le principe de tout roman, c'est faire que quelqu'un, en tout cas d'endormi, devienne éveillé. Et dans Des fleurs pour Algernon, on comprend qu'être intelligent, ce n'est pas forcément un avantage. Par moment, être bête, ça aussi, ça a un intérêt.
Sa Majesté des Chats, son nouveau roman, est disponible chez Albin Michel. Bernard Werber est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
Les amis, qui n'a jamais été enclin un soir d'été à philosopher en observant la voûte céleste?
Tu t'es déjà demandé ce que c'était que ces petits points brillants là-haut?
Des lucioles, Pumba.
Moi, je pensais que c'était des bulles de gaz.
Toi, à part le gaz, il n'y a pas grand-chose qui t'intéresse.
Quoi de plus romantique que donner son nom à une bulle de gaz? Une étoile! Notre invité Bernard Werber l'a fait, paraît-il. Vous nous direz si c'est vrai, vous l'avez vraiment fait?
Moi, je ne l'ai pas fait, mais il y a une météorite qui porte mon nom, qui m'a été offerte par un astronome, qui est un lecteur de mes livres. Et donc, une météorite qui s'appelle Werber.
Nommer un astéroïde ou une étoile, Alain Sirou nous explique comment faire.
16h, 18h sur Europe 1, L'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Étoffer sa culture G tout en assouplissant ses zygomatiques, c'est désormais chose possible grâce à L'équipe est sauvage. 2 heures également pour apprendre à mieux découvrir un invité vedette. Grâce à la précision de mes interviews, dont la grande force est surtout d'être très bien documenté. Vous avez 2 enfants, ils ont l'âge de lire Happy Sex ou...
J'en ai 5.
Vous avez 5 enfants?
Ouais,
mes fiches sont bien faites. Vous avez déjà 3 enfants, si je ne m'abuse, c'est ça?
Non, j'en ai qu'une seule.
Bernard Werber, c'est fébrile que je vous pose la question. Vous avez bien 3 enfants?
Oui, j'ai 3 enfants.
Oh oui, oh, non. Ça fait du bien quand même. Ils lisent vos romans. Ils ont quel âge déjà? Ils sont
alors, en âge de 25 lire ans.
Ah, oui. Ils ont en âge de lire, oui.
8 ans et 1 an.
Alors, celui de 25 ans, j'imagine, a lu tous vos romans?
Ah oui, il a été forcé sous la menace et sous la privation de dessert s'il termine par le bouquin.
Et quand vous écrivez justement un nouveau roman, il fait partie de vos premiers lecteurs?
Maintenant, oui, parce qu'il est devenu écrivain. Il s'est papa fait un boulot de feignant qui a l'air de marcher vachement bien et qui est très sympathique, je vais faire le même. Donc maintenant, il est l'un de mes premiers lecteurs de manuscrits.
C'est une question que j'allais vous poser plus tard dans l'émission, mais je vous la pose tout de suite. Votre carrière est tellement dingue. Le succès est tellement fou, vendre 30 millions de livres dans le monde. Est-ce que vous conseilleriez justement à votre fils et à d'autres jeunes qui nous écoutent de se lancer dans la carrière d'écrivain ou passe un diplôme d'abord? Parce que c'est quand même, évidemment le talent est en cause, mais il y a un facteur chance qui n'est pas négligeable quand même à un moment.
Alors, moi je conseille à tout le monde d'écrire. Après ils verront bien s'ils sont publiés. Mais le fait d'écrire est déjà une joie. Comme pour un oiseau de voler. Après, gagner des concours du vol le plus haut ou le plus rapide, c'est une autre histoire. Là, en effet, il y a ce facteur chance. Mais le fait d'écrire un manuscrit apporte déjà énormément de satisfaction. Donc, je conseille à tout le monde d'écrire. Après, ils verront bien s'ils vont jusqu'au bout. L'objectif est d'aller au mot fin.
Eva Roque.
En parlant d'écriture, vous avez un rapport très étrange à l'écriture. C'est vraiment tous les jours, vous vous mettez à votre bureau et vous écrivez pendant 4h30, c'est ça, à peu près ?
Oui, j'avais lu ça dans une interview à propos de Frédéric Dard, qui était mon héros, parce que je lisais San Antonio quand j'étais jeune. C'était une de mes lectures de jeunesse, parce que je me marrais, je tournais les pages et je riais. Et ce que j'attends d'un livre, c'est qu'il m'amène des émotions, et notamment me fasse rire. Et donc Frédéric Dard disait, moi j'écris tous les matins de 8h à 12h30. Et j'ai rencontré un autre auteur qui faisait ça, qui était Patrick Covin, et j'ai eu l'impression de voir un homme heureux. Et quand j'ai regardé, je lui ai dit, je crois que vous m'avez montré un objectif de vie. Il était avec son chat, avec sa machine à écrire, et il me disait, le matin j'écris, l'après-midi je vais voir un film. Je me disais, mais c'est une vie géniale ça, c'est ça que je veux.
Et c'est ce que vous faites aujourd'hui?
Je fais ça depuis l'âge de 16 ans. Voilà. Tous les jours, il n'y a pas un jour, même en vacances, j'écris tous les matins. Et si je n'écris pas le matin, j'écris l'après-midi.
Alors Bernard Werber, des fourmis au chat, on sent votre passion, votre fascination pour les animaux. Je voulais revenir sur la préface. Vous attribuez au chat Pythagore, un des personnages du livre, ce chat connecté à Internet, on l'a dit, la phrase suivante. Tout être qui cache son anus peut raisonnablement être considéré comme suspect de vouloir dissimuler ses vrais sentiments. Est-ce à dire que l'homme est fourbe, à l'exception des naturistes?
Regardez quand même, tous les animaux exhibent leur anus, mais probablement d'ailleurs pour envoyer des odeurs de communication avec leur espèce, notamment je suis ouverte à toute rencontre, je pense, alors que nous on met des parfums artificiels pour troubler le message. Mais chez les animaux, visiblement, il n'y a pas de pudeur, et ça a peut-être un sens, peut-être ça leur apporte quelque chose, cette absence de pudeur.
Dans votre encyclopédie du savoir relatif et absolu, page 239, vous rappelez que les chats ont été utilisés à des fins militaires, on le savait pour les chiens, les chevaux ou encore les pigeons, mais pour les chats, ça a été un échec. Racontez-nous en quoi les chats sont différents.
Alors, en 1961, la CIA a voulu utiliser un chat comme espion. Donc, ils ont mis des micros dans ses oreilles. Ils ont mis une batterie dans son ventre et une antenne dans sa queue. Et ils l'ont dressé pour qu'il aille dans l'ambassade de Russie. Et le chat est rentré dans l'ambassade de Russie. Et il est ressorti parce qu'il n'a rien trouvé à manger. Et il s'est fait tout de suite écraser par un taxi. Et la CIA n'a pas voulu renoncer. Donc, ils en ont fait encore une dizaine. Et ça a coûté 50 millions de dollars. Ils ne sont jamais arrivés à avoir des informations de l'ambassade de Russie avec des espions chats.
Nicolas Caro.
En revanche, et ça a marché cette fois-ci, les chats ont été utilisés comme boucliers contre les Égyptiens.
Oui.
C'est ce que vous racontez dans le livre.
Les chats ont été vénérés en Égypte pendant au moins 3000 ans, jusqu'à l'an moins 500 avant Jésus-Christ, où il y a eu cette fameuse bataille de Péluse, c'est-à-dire c'était les Perses. Dirigé par le roi Cambyse II qui envahissait l'Égypte, il n'arrivait pas à prendre l'Égypte, et à un moment quelqu'un leur a dit il vénère les chats, alors il a attaché des chats vivants sur les boucliers des soldats et les soldats égyptiens n'ont pas osé tirer des flèches, et c'est comme ça que l'Égypte a été envahie par les Perses en moins 500 avant Jésus-Christ.
Il est toujours aussi passionnant, son nouveau roman vient de sortir, il s'intitule Sa Majesté des Chats. Bernard Werber est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
Comme moi, il vous est arrivé d'emmener une fille dans un parc à la nuit tombée et de lui faire ce qu'on appelle le coup des constellations. Tu vois bébé, ça c'est Cassiopée du Centaure, et là Andromaque, et puis bien sûr la Grande Ourse, enfin n'importe quoi. Subjuguée, elle se laisse bercer par vos mots quand soudain elle renifle son chemisier en s'exclamant...
Moi, je sens le poivre.
Oui, ça marche pas à tous les coups. Bon, contempler des étoiles, c'est pas toujours gagnant. Mais désormais, vous pouvez donner votre nom à une étoile. Et ça, c'est sacrément classe. Alain Sirou, le plus romantique d'entre nous, vous donne la marche à suivre.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures pour comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire, en compagnie des meilleurs journalistes d'Europe 1 qui croisent le fer au service de votre culture G. Un seul sera élu chroniqueur du jour, sous l'œil de notre invité arbitre Bernard Werber pour la sortie de son nouveau roman, Sa Majesté des Chats. Quel journaliste l'emportera donc aujourd'hui? Peut-être notre expert scientifique Alain Sirou. Il dirige la revue Ciel et Espace, ses connaissances en astronomie font de lui l'homme de la situation pour nous parler d'une pratique de plus en plus courante, donner son nom à une étoile. Vous allez voir Bernard, physique quantique, astrophysique, Alain est impressionnant.
Si seulement je pigeais de quoi vous parlez Louis, c'est du chinois. J'ai gardé un état dans la tête gros comme une tasse. Le seul truc pour retenir cette moumoute, c'est un aimant magnétique logé à l'intérieur du lobe droit de mon crâne. Alors, je vous laisse agir à votre idée. Est-ce qu'il y a du rhum steak?
Oui, non, c'est vrai qu'il a quelques heures de vol Alain Sirou maintenant, mais vous allez voir, il reste performant. Alain, pardon, vous vous remettez de vos émotions.
Il est malade.
Still alive.
Racontez-nous comment on fait pour donner son nom à une étoile.
Bon, alors, pour tout vous avouer, en dehors d'être malade, je suis parti perdant quand j'ai appris que Bernard Werber était votre invité.
Pourquoi ?
Parce que Bernard a son nom dans les étoiles depuis déjà un petit bout de temps, puisqu'il y a l'astéroïde Werber, numéro 381048, donné par... un astronome amateur qui s'appelle Jean-Claude Merlin, et avoir un caillou de quelques kilomètres de diamètre qui tourne entre Mars et Jupiter.
Entre Mars et Jupiter. Ouais.
Dans la ceinture d'astéroïdes, c'est un petit peu le cadeau du petit prince, quoi. C'est vraiment.
Je remercie Merlin l'Enchanteur.
Et
c'est un astronome qui m'a fait ce cadeau. Vous savez, par moments, ça vous arrive sur la gueule, comme les météorites.
Ouais.
Et je trouve ça fabuleux. Parce que moi, je vais crever, mais le météorite va continuer de tourner. Et ça, je trouve ça
exactement.
Formidable.
Et c'est pour l'éternité,
Bernard. Attendez, Alain Bernard, je vous pose la question. Cet astéroïde, on peut l'observer ?
Est-ce qu'on
peut...
j'ai d'ailleurs amené.
Vous l'avez déjà vu ?
Il m'a envoyé des photos,
des petits
films où on voit l'astéroïde. Bon, en gros, c'est un point blanc qui traverse.
Ah oui, mais bon,
blancs,
c'est le vôtre, c'est votre point blanc, et ça, c'est important, Bernard. Alors, comment on fait si on veut donner son nom à une étoile ?
Il n'y a pas beaucoup de solutions. Soit on découvre soi-même une comète ou un astéroïde,
et
donc c'est son nom, on porte son nom.
Automatiquement.
La comète Noël.
Il faudrait déjà que j'achète une lunette.
Bon, voilà, exactement. Ou alors, vous avez un astronomateur. Ou un professionnel
avant,
qui décide de vous faire ce cadeau. C'est-à-dire, effectivement, parce qu'il vous aime, parce qu'il a récompensé sa femme, sa maîtresse et son chat. Ben après, il pense à vous. Quoi. J'ai pensé au chat, Bernard. Donc, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on ne peut pas acheter un nom d'étoile.
Ça,
on ne peut pas acheter un nom sur la Lune, même si certains vendent des propriétés sur la Lune.
Mais
c'est
pas possible, c'est territoire international.
Mais ça a beaucoup de succès. Celui qui a fait ça a gagné beaucoup d'argent. Mais ça n'est pas du tout autorisé, puisque, en fait, seul... L'Union Astronomique Internationale, l'UAI, c'est-à-dire l'espèce de d'ONU des astronomes, peut donner des noms dans une commission que j'adore. C'est son nom, c'est la Commission de la Nomenclature Céleste. Et elle donne
ça,
des noms...
Ça, c'est sérieux ?
Oui, elle donne des noms de cratères, de plaines, etc. sur Vénus, Mars, les cratères... Sur les satellites de Jupiter ou de Saturne. Simplement, à chaque fois qu'une sonde passe et découvre de nouveaux objets. Et là, les règles sont très précises, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas nommer n'importe quoi. Vénus, par exemple, c'est uniquement dédié aux femmes.
Ah bon ?
C'est une planète dédiée aux femmes. Sauf que la montagne la plus importante porte le nom de Maxwell, qui est un physicien anglais. Mais vous trouvez Maria Callas, Coco Chanel, etc., etc. Des milliers de noms.
Tout ça sur Vénus.
Bon. Et effectivement, quand on va sur Mars aujourd'hui, on explore Mars avec des robots qui roulent dessus. Il y a plein de choses à nommer, des petites collines. Des creux, des cratères, etc. Et on discute, Mars, alors c'est plutôt le lieu des dieux de la guerre. Des noms qui doivent être acceptés par tout le monde. Il faut que ce soit d'abord harmonieux. Il ne faut pas que ce soit trop long. Il faut aussi que ça ne ressemble pas à des choses trop connues. Donc interdit animaux domestiques, par exemple. Ah. Interdit des marques commerciales. Interdit des individus dont les activités politiques sont bien connues. Il faut être au moins mort depuis 100 ans pour avoir son nom dans les étoiles. Donc ça, c'est une chose qui est certaine. Donc en ce moment, il n'y a que deux possibilités, si je puis dire, de pouvoir franchir cette petite barrière. La première, je vous ai amené
ah,
votre...
Je vais remplir la fiche.
Non, voilà, alors ce n'est pas une fiche du tout.
Elle est faite déjà.
Elle est faite.
Dans quelques mois, va partir une sonde à destination de Mars, qui s'appelle Mars 2020. Et vous pouvez aujourd'hui aller sur un site, qui est le site de la NASA, où vous inscrivez votre nom. Ouais. Votre nom va être inscrit sur une petite puce qui va faire partie du voyage de la sonde et va se poser sur Mars l'été prochain.
J'adore.
Donc Mathieu Noël sera sur Mars à la fin de l'été prochain.
On va mettre le lien de ce site, évidemment, sur le compte Twitter et sur Europe1.fr.
Et ça, c'est gratuit, c'est votre boarding pass pour Mars. Et la deuxième chose, c'est que aujourd'hui, l'Union Astronomique Internationale, pour fêter ses 100 ans d'existence, propose aux gens de nommer une exoplanète et son étoile. Cette exoplanète s'appelle HD 8574. Bon, c'est pas très sexy. Elle est dans la constellation des Poissons à 150 années-lumière d'ici. Et il y a un concours qui vous permet aujourd'hui de chercher un nom qui pourrait peut-être être donné. Alors, vous avez le droit d'imaginer ce que vous voulez, mais il faut qu'il y ait un lien entre la planète qui tourne autour de son étoile, et l'étoile. Alors, je ne sais pas, pensons par exemple à Quasimodo qui tournerait autour d'Esmeralda.
Ah oui,
voilà. Vous êtes coquine.
Et vous avez le droit d'imaginer ce que vous voulez de ce côté-là.
Et on note que les gens de la NASA ont de l'humour, puisqu'en bas à droite de ce petit coupon que vous m'avez donné, il y a écrit le nombre de points, de miles que vous gagnez. Et là, 313 586 649 miles. Ça, c'est pas mal. On peut tous voyager en business. Merci beaucoup Alain Sirou. Nicolas Caro, vous avez pensé quoi de la chronique de votre concurrent ?
J'ai manqué le début, mais la fin était bien.
Bien, c'est dégueulasse. Merci Alain Sirou. Moi, personnellement, je vous le dis, mais vraiment solennellement, si j'avais un jour la possibilité, ben, comme ça, de nommer une étoile, je l'appellerais Eva Rock.
C'est vrai ?
Mais non, je déconne. Europe 1. Oui, Eva, il faut avoir le cuir bien tanné pour s'imposer dans la compétition la plus cruelle de l'histoire du journalisme.
Et travailler avec vous.
Violence, c'est vrai. Trahison, coup bas, depuis la rentrée, la rédac d'Europe 1, c'est Game of Thrones, le sexe en moins, parce qu'on n'a plus le temps. À l'issue de ces deux heures, un seul montera, non pas sur le trône de fer, mais sur mes robustes cuisses, pour que je le couronne. Vous votez via Twitter. Dans quelques instants, une trêve pour nos valeureux guerriers, ce moment où tous les belligérants déposent les armes pour s'en payer une bonne tranche devant le quiz qui oppose chaque jour Eva Rock à notre invité sur un thème qui avantage toujours l'invité. Par exemple, face à Bernard Werber, si on avait été vicieux, on aurait fait un quiz sur les chats. Mais comment ça part, on va faire un quiz sur les fourmis.
Quel connard.
Je vous en prie, Eva, restez polis, restez polis.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Nous sommes toujours en compagnie de Bernard Werber, venu nous présenter Sa Majesté des Chats, son dernier roman publié chez Albin Michel. Ça se passe dans un futur proche, dans lequel notre civilisation s'est effondrée, dans un Paris envahi par les rats, où une petite communauté résiste, composée d'humains et de chats. Comment naît une idée comme celle-là? Mon sentiment, Black Mirror plus tequila. Je suis sûr que c'est comme ça que ça a démarré.
Vous savez, quand j'ai proposé l'idée de faire un livre sur les chats, elle m'a dit « Bon, bah, ça va être pour les jeunes parce que les adultes ne voudront jamais lire des histoires de chats. » Et j'ai dit « Ok, laisse-moi faire. Je te promets du sang, de la chic et du molar et du rock'n'roll chez les chats. Ils vont en prendre plein la gueule. Et ma chatte, elle est nymphomane et narcissique et mégalomane. Et l'ensemble va être sous le signe des grandes batailles. » Vous parlez de Game of Thrones, c'était un Game of Thrones chez les chats dans Paris. Ça. Donc j'ai dû aller à fond sur les effets spéciaux, les batailles et tout, pour que précisément ça soit bien identifié, tout public.
Alors Bernard Werber, vous nous avez décrit tour à tour la formidable intelligence des fourmis, la prodigieuse intelligence des chats. Laissez-moi vous présenter la stupéfiante intelligence d'Eva Rock. Diplômée de la prestigieuse Polytechnique School of Jean-Lépin, Eva brille chaque après-midi dans la séquence du quiz qui l'oppose à l'invité. Alors la dernière fois, le principe assez simple, du moins le croyais-je, hein. Je lisais la bio d'une personnalité, il fallait me dire simplement si cette personne s'appelait François ou Xavier. Donc deux possibilités, François ou Xavier, écoutez la réponse d'Eva. Acteur dans la série Pas de pitié pour les croissants, Eva Rock.
Cabu ? Cabu, Corbier, c'est proche.
Je sens Bernard Werber assez serein avant d'entamer le quiz. En hommage à vos fourmis, Bernard Werber, et en hommage à vos félins, dans votre dernier livre, Sa Majesté des Chats, chez Albin Michel, on a décidé de faire un quiz animalier. C'est un vrai faux, c'est chacun son tour, chaque bonne réponse vaut un point. Un indice pour Eva, aucune réponse n'est Cabu. Eva Rock, si vous êtes un homme et qu'au Brésil vous êtes piqué par l'araignée banane, vous risquez d'avoir une érection. Vrai ou faux, Eva?
Mais comment voulez-vous que je réponde à cette question, quoi?
C'est un vrai sujet,
attends,
attends
là.
Faut déjà que je m'imagine en plein.
Vrai, faux ou cabu?
Oh, je dirais vrai.
Mais vrai, oui, mais oui. Ah, ça me plaît, cette histoire d'araignée banane.
Mais oui.
Le venin de cette araignée banane augmente la production d'oxyde nitrique. C'est un vasodilatateur provoquant une érection. Ne cherchez pas à vous faire piquer par elle, ça peut entraîner aussi des asphyxies ou des douleurs atroces, voire la mort. Donc,
ah oui, donc on ne connaît pas l'effet sur une femme, par exemple. Voilà.
Ah bah là, il ne faut pas essayer du tout, puisque ça n'a aucun intérêt. Autant nous, il peut se passer quelque chose de positif, autant vous, seule la mort vous attend. Attention, une question, trois propositions, vous répondez ensemble. Le wombat, petit marsupial très mignon, vit en Australie. Quelle est sa particularité? Trois propositions. 1. Il est le seul animal à faire des crottes carrées. 2. Il est le seul animal à ne jamais boire. Ou 3, il est le seul animal à avoir suivi tous les conseils télé d'Eva Rock depuis qu'elle fait de la radio.
C'est pas possible qu'ils boivent pas.
J'ai cru de suivre les conseils télé d'Eva Rock.
Et les deux autres réponses m'ont l'air peu probables.
Ouais. Et pourtant,
une est vraie. Carré.
Bonne réponse. Taisez-vous, Eva. C'est notre invité qui a pris la main. C'est notre invité qui remporte le point, les crottes cubiques. Il en profite pour les empiler et mieux marquer ainsi son territoire. Il fait du Tetris avec ses crottes. Il peut produire une centaine de petits excréments carrés en une nuit. Il est productif, le wombat. Sachez que le koala, vous disiez tout à l'heure que c'était pas possible, ne boive pas. Le koala ne boit pas. Les feuilles d'eucalyptus lui suffisent.
Oui, il prend l'humidité dans les feuilles d'eucalyptus.
Ah oui, tout à fait, mais il ne boit pas du coup. C'est incroyable.
Il y a de l'eau qui rentre dans son corps.
Ah oui, il y a de l'eau qui rentre dans son corps, évidemment. Bernard Werber, attention, cette question va vous départager. Pour communiquer la nuit, les harengs ont un système de sonar totalement identique aux chauves-souris. Vrai ou faux?
Vrai.
C'est faux. Ils utilisent...
C'est pas piqué des hannetons. Non, c'est pas du sonar. Les harengs utilisent la lumière. Ils ont... Vas-y.
Alors, si vous faites des grands signes, ensuite je vous donnerai la réponse.
Hein. Les harengs sont connus pour péter.
Et c'est bonne réponse d'Alain Sirou. Un point sur un point bonus. Et écoutez bien.
Des petites bulles qui explosent.
Ils utilisent les flatulences pour se parler. C'est la plus ancienne académie des sciences en Europe, la Royal Society britannique, qui a publié l'étude scientifique. Les chercheurs ont remarqué qu'en aquarium, les harengs commencent à produire des sons très aigus sous forme de paix quand venait le soir. Et plus ils étaient nombreux, plus le nombre de bulles de gaz augmentait. Les poissons des autres espèces ne pouvant entendre cette fréquence, on en a déduit une forme de communication.
J'ai bien fait de venir. On apprend des choses.
Apprendre quelque chose sur un animal à Bernard Werber. Là, je dis bravo nous.
Est-ce que vous pourriez écrire un livre sur les harengs?
Maintenant que vous me le dites, c'est une peut-être
nouvelle,
une idée.
Peut-être.
Là.
Bah oui.
Mais là, demain les harengs et Sa Majesté les harengs, je vais y réfléchir.
Mais je crois que votre éditeur va trembler encore une fois de plus. À moins de mettre un harang nymphomane et narcissique.
Je pense que ça va marcher en Bretagne.
Sa Majesté des chats, son dernier roman vient de sortir. Bernard Werber est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
C'est dans une ambiance particulièrement débridée puisque Nicolas Carreau vient d'amorcer une chenille avec Alain Sirot, lui-même en discussion avec Bernard Werber.
Les chats sont-ils solides ou liquides ?
Vous l'écoutez pas Bernard, il est bourré. Que l'équipe est sauvage se poursuit, 2 heures au service de votre savoir et de votre bonne humeur, même si parfois, comme hier matin, la vie nous rattrape. C'est vrai, on apprenait le décès de Jacques Chirac. Avec la réactivité qu'on lui connaît, notre correspondant à Toulouse, Benjamin Peters, s'est immédiatement rendu au musée Jacques Chirac à Saran, fief de l'ancien président de la République. Il y est encore et il n'est pas tout seul.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h. 18h,
Mathieu Noël.
C'est évidemment l'info qui a fait la une de vos JT hier. Europe 1 vous proposait une grande journée spéciale. En fin de matinée, on apprenait la mort de Jacques Chirac. Beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs aussi pour certains, comme Alain Sirou qui, à l'époque, avait collé des affiches en chantant. Toute une époque, Alain, hein ?
Oui. Eh oui.
Alors justement, il y a un endroit où l'émotion est forte au lendemain du décès de Jacques Chirac. C'est à Saran, au musée qui porte son nom. Bonjour Benjamin Peters.
Bonjour Mathieu, bonjour Eva, bonjour à tous.
Bonjour. Vous avez visité ce musée hier consacré au cadeau protocolaire qu'a reçu Jacques Chirac lorsqu'il était président de la République.
Oui, et comme vous le disiez, ça se trouve à Saran, hein, dans ce qui a longtemps été le canton de Bernadette Chirac, hein, un bâtiment qui regroupe 5000 objets, dont près de la moitié sont présentés au public. Un incroyable bric-à-brac, vous allez trouver des bijoux, des tapis, des étoffes, des clés par dizaines. Vous savez, quand une personnalité va dans une ville, très souvent, on lui offre symboliquement les clés de la ville. On sourit, on fait la photo, mais après, qu'est-ce qu'on en fait de tout ce trousseau géant ? Eh bien, tout est là, des clés de Budapest, de Nagoya, de Montevideo. Vous avez aussi beaucoup d'objets en rapport avec le Japon, des statuettes de sumo, témoignage en fait de sa passion pour ce sport.
Et j'imagine qu'il doit y avoir des choses insolites ou des pièces historiques ?
Eh bien oui, c'est évidemment vers ça qu'on se dirige, comme tous ces bustes ou portraits de lui-même, plus ou moins bien réalisés, il faut bien dire.
Des belles choses là.
C'est magnifique. Et où ce poisson géant empaillé, offert par le président des Comores, un sélacanthe, ça doit parler à Bernard Werber. C'est ce poisson préhistorique qu'on a longtemps cru disparu. Et puis il y a aussi une paire de Santiago que le président Bill Clinton avait l'intention de faire porter à tous les chefs d'État lors du G8 de Denver en 97. Écoutez Catherine Combrose, la directrice du musée.
Bill Clinton avait souhaité que tous les représentants des G8 portent une tenue de cow-boy. Donc les Santiago faites sur mesure, la boucle de ceinturon et vous avez une tenue en jean et un Stetson. Mais quand le président Jacques Chirac et le chancelier à l'époque Edmund Kohl ont vu ces tenues, ils se sont dit que pour faire simple, ils seraient peut-être un peu ridicules quand même. Ils ont refusé de les porter. Du coup, les autres présidents et chefs d'État ont refusé aussi. Donc, il n'y a pas eu de photo finale.
Oh, ça, c'est vraiment dommage.
Ça aurait été
un grand moment. Hein. Aujourd'hui, on aurait pu ressortir l'archive.
Extraordinaire. Tous ces chefs d'État déguisés en cow-boy. Franchement, je regrette cette photo. Et puis en fait, on se plonge aussi dans les années 90 avec tous ces maillots de sportifs, ces ballons dédicacés. Le maillot numéro 10 de Zidane du 12 juillet 98 et le fanion de l'équipe de France de ce jour-là sont ici, dans ce musée.
Vous ne pouvez pas essayer de le piquer ?
Alors, il est bien protégé derrière une vitre quand même. Et du coup, en tout cas, on a une curieuse impression en se promenant dans ces collections, puisque l'ancien président est finalement partout autour de nous.
C'est une référence au lien qu'il avait avec Bill Clinton, Nelson Mandela, Yasser Arafat, Boris Eltsine ou déjà Vladimir Poutine. Et à travers l'objet, on voit presque en seconde lecture le lien qu'il y avait à ce moment-là entre deux personnes ou deux pays. On pourrait dire que presque, si vous croyez au fantôme, dorénavant le fantôme de Jacques Chirac est dans ce musée.
Voilà, et dès hier, du coup, un portrait de Jacques Chirac saluant la foule a été installé sur la façade. Des registres de condoléances ont été ouverts ici. Et assez naturellement, c'est dans ce musée que des habitants, des élus aussi, dont la plupart doivent toute leur carrière à Jacques Chirac, sont venus sentir sa présence et lui rendre hommage.
Merci beaucoup, Benjamin Peters, notre correspondant à Toulouse, très réactif aujourd'hui. Son dernier roman, Sa Majesté des chats, vient de sortir. Bernard Werber passe toute l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
Vous écoutez L'équipe est sauvage, l'émission qui chérit vos zygomatiques mais qui n'oublie pas votre précieuse cervelle. Chaque après-midi, les journalistes d'Europe 1 se plient en quatre pour vous la remplir d'infos passionnantes, d'histoires édifiantes qui vous permettront de frimer ce soir au dîner. Hier, par exemple, Eva a appris le nom d'un célèbre écrivain américain. Le soir, au moment de l'apéro, elle a tenté de le replacer.
Oh non.
Ça a presque marché.
à Brest-Estonie-Lys. Bon, je ne vais même pas y arriver.
À suivre.
J'étais fatiguée.
Oui, ça, vous étiez fatiguée. Et vu votre soirée d'hier, visiblement, d'après les échos que j'en ai eus, vous êtes encore plus fatiguée aujourd'hui.
Non,
hein.
Je suis en pleine forme.
Oui, bah tiens, suivez-nous sur Europe1.fr, vous verrez si elle est en pleine forme. À suivre. Deux nouveaux concurrents vont pénétrer dans l'arène.
Ah ouais.
Non, elle a postrophé là. Ils répondront à deux questions. Ouais, c'était un peu compliqué à comprendre, Zafia, hein, quand on a bu, oui. Ils répondront à deux questions que vous vous posez peut-être. Comment ne pas se séparer après avoir fait un enfant et comment se faire rembourser quand la compagnie aérienne ou l'opérateur qu'on avait choisi ont fait faillite entre-temps. A tout de suite.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue, deux heures d'une lutte impitoyable entre les meilleurs journalistes de la station au service de votre bonne humeur et de votre savoir. Sous l'œil d'un invité arbitre exceptionnel aujourd'hui, depuis son best-seller Les Fourmis en 91, il a vendu près de 30 millions de livres de par le monde. Le dernier s'intitule Sa Majesté des Chats, édité chez Albin Michel. Bernard Werber nous accompagne cet après-midi. Bernard qui est talentueux, mais agaçant. Moi, quand hors antenne, je me livre à des confidences sur mon chat... Bah moi, mon chat, il passe sa journée à regarder par la fenêtre et il miaule comme un fou parce qu'il voit les oiseaux, mais il peut jamais les choper. C'est dans ses rêves qu'il les chope. Et bah, quand je dis ça, tout le monde s'en fout. Et vous, Bernard, vous en faites un roman qui va encore être un best-seller. Comment vous faites? J'aimerais bien pouvoir capitaliser sur mes anecdotes sur les chats. Alors, depuis la parution des Fourmis, vous êtes l'un des romanciers, on l'a dit, les plus lus en France, traduits dans le monde entier, notamment, j'ai lu, en Russie et en Corée du Sud, où vous êtes là un auteur culte. Pourquoi dans certains pays comme ça, qu'est-ce qui se passe en Corée du Sud?
En Corée du Sud, d'abord, j'ai un super éditeur. Vous savez, souvent, la réussite d'un livre, ça vient aussi de l'éditeur. Et il faut avoir l'humilité de le dire. Et c'est un pays où ils lisent énormément. Et ils sont curieux de tout ce qui est nouveau. Ils ont un passé affreux. L'histoire de la Corée est terrible. C'est un pays qui a été victime d'invasions permanentes parce qu'ils ont comme voisins les Chinois, les Japonais et les Russes. C'est vraiment pas de chance. Mais du coup, ils ont développé une sorte de passion pour le futur, pour les nouvelles technologies. Et donc, ils ont trouvé dans mes livres une sorte d'appel à une vision différente du futur qu'ils ne trouvaient pas dans la littérature classique.
Voilà. Les Coréens, mais vous aussi, allez adorer Sa Majesté des Chats. On continue d'en parler. Mais d'abord, je vous propose, Bernard, de découvrir nos deux derniers concurrents en lice aujourd'hui. À ma gauche, toujours sur le podium depuis la première journée du championnat, une femme étonnante qui, Varrock, trouve même un peu...
Toc, toc, toc.
Bonjour, Eve Roger.
Bonjour, c'est sympa, toc, toc, toc.
Vous êtes la chef du service société d'Europe 1 et aujourd'hui, vous nous parlez d'un phénomène hélas fréquent, ces couples qui se séparent juste après avoir eu un enfant. On voit le tableau. Hein.
Je sais que ça fait 43 jours qu'on n'a rien fait.
Tu sais très bien que depuis la dépression nerveuse de Durieux, je me tape le boulot de deux personnes à la boîte.
On a toujours des excuses. Mais Eve, vous avez la solution.
Et oui, ce baby clash, là, c'est l'arrivée du premier bébé. Et bien, je vais vous donner quelques astuces pour surmonter l'obstacle sans se séparer.
Ah bah ça va être utile à tout le monde, hein. Enfin, sauf à Eva. À ses côtés...
J'attendais que vous le disiez parce que je
c'est
me sentais pas concernée.
Que j'ai pensé que ça ne vous concernait pas. À ses côtés, Bernard Werber, il est à Eve Roger ce que Robin est à Batman. Vivant dans l'ombre de la superwoman de la rédaction, Emmanuel Duteil, pourtant chef du service éco, ne recule devant aucune bassesse, aucune mesquinerie pour égaler sa prestigieuse collègue, comme mercredi, quand elle avait 5 minutes de retard.
Bon, moi, je pense qu'on peut disqualifier Eve parce qu'elle est en retard.
Emmanuel, entre les faillites de Thomas Cook et celles de plusieurs compagnies aériennes, à quoi va bien pouvoir ressembler le tourisme de demain? C'est la question que vous êtes posée aujourd'hui.
Oui, je tiens déjà à dire que Eve Roger m'a dit ce matin en arrivant à la rédaction, je prépare ma chronique pour t'écrabouiller.
Ça va, c'est beau, vraiment.
Eh bien, moi, je vous emmène quand même tous en vacances parce que je vous aime tous et je vais vous expliquer comment aujourd'hui ce monde du tourisme est en train de se réinventer et comment du coup on va tous partir en vacances demain.
Quel sujet captivera-t-il le plus notre invité Bernard Werber? Réponse peu avant 18h. Sa Majesté des Chats, c'est le titre du nouveau roman de Bernard, le papa des fourmis, entre autres, on le rappelle, succès d'édition mondiale. Vous disiez qu'en 91, votre rêve, c'était juste d'être publié. Aujourd'hui, très sincèrement, ce qui vous arrive dépasse vos rêves les plus fous de l'époque. Enfin, c'est...
L'avantage quand on fait un livre qui marche, c'est qu'on est tranquille pour pouvoir faire un autre livre. Et mon angoisse, c'est de ne plus pouvoir être écrivain et d'être obligé de faire un vrai travail normal, genre ce que vous faites vous, journaliste.
Que vous connaissez bien comme métier.
J'ai été journaliste et je crois
ça
que
ça ne vous manque pas.
Non, j'ai une allergie à toute forme de hiérarchie. Alors, ça s'est développé avec l'âge. C'est-à-dire, je ne supporte pas que qui que ce soit me dise ce que j'ai à faire. Je ne vous le souhaite pas, hein. C'est presque une maladie. Donc, je suis très heureux d'être écrivain. Et chaque fois qu'un livre marche, je me dis, chouette, je vais pouvoir continuer à être écrivain encore une année ou deux.
Et ben,
alors, je suis très étonnée par ce que vous dites, vous qui détestez la hiérarchie. Parce qu'on ne parle que de hiérarchie et de pouvoir quasiment dans votre livre.
Pour le dénoncer.
Pour le dénoncer, c'est ça.
Mais surtout chez les rats. Les rats, c'est des animaux hyper hiérarchisés dans lesquels il y a des rois de rats, il y a des barons, il y a tout un système qui exploite des rats dominés et des rats dominants. Et c'est pour ça que la société de rats me semble un risque pour notre société.
Oui, mais...
Il faut à tout prix éviter de devenir des rats.
D'accord pour les rats, mais quand même, votre héroïne principale, la chatte Bastet, elle adore le pouvoir, elle parle de dictature éclairée, elle pense que c'est elle qui va diriger le monde et qu'il faut que le monde soit dirigé par elle. Hein,
j'ai jamais dit que c'était une héroïne sympathique, c'est une héroïne. Vous savez, le point de vue de Napoléon sur l'Europe à l'époque, ça devait être un peu ça, hein, mais il devait considérer qu'il libère les peuples.
Alors Bernard Werber, votre succès est immense, mais tout le monde vous connaît-il? Est-ce qu'il n'y aurait pas encore 2-3 personnes qui confondent avec Jacques Weber ou les barbecues Weber? On a tenu à vérifier sur le terrain. Ce n'est pas un micro-trottoir, trop flagorneur pour l'invité, c'est un micro-trop-trash, comme un micro-trottoir, mais pas monté. On a laissé tout ce que les gens ont dit.
Bernard Werber.
Bah, c'est un petit brin, hein. Oh, bah, il fait un peu des, je sais pas, des, il parle des fourmis, etc.
Ah, mais oui, évidemment. Mais oui. Et donc, j'en ai offert des livres de lui. J'en ai offert.
On s'ennuie pas. C'est un roman, on part dedans. On peut en faire un film. D'ailleurs, il y a eu des films, hein, mais bon. Moi, je commence, je finis rapidement.
Il est chauve. Il est bien.
Et il a une tête ronde avec des petites lunettes rondes.
J'ai déjeuné une fois avec lui. Je l'ai senti très proche des gens, très ouvert, très humain, comme les fourmis avec des antennes.
Comme les fourmis avec des antennes. Et si c'était ça, au fond, le secret de votre succès, Bernard Werber, une sensibilité hors norme, y compris à l'infiniment petit, les fourmis.
J'en sais rien. Vous savez, je ne me connais pas du tout. Hein. Je vais un peu dans les émissions pour que les gens me disent qui je suis.
Qui vous êtes.
J'écris des histoires pour essayer de comprendre qui je suis, mais donc je viens d'apprendre que j'étais un extraterrestre avec des antennes ou un insecte. Et c'est une information intéressante.
Sa Majesté des Chats, c'est son dernier roman. Il y aura même une soirée, la Fête des Chats, le 4 octobre au Grand Rex, dont il sera maître de cérémonie. On va en parler. Bernard Werber nous fait l'honneur de nous accompagner jusqu'à 18h.
Europe 1.
Eva Roch, Eve Roger, Emmanuel Duteil sont à mes côtés. L'équipe est sauvage continue. 2 heures de gaieté informative pour vous, d'une farouche guéguerre pour eux. Après les chauffeurs du taxi, les livreurs de bibimbap, vous pouvez désormais noter les journalistes. En tout cas, ceux d'Europe 1, qui prennent ça très au sérieux. Trop au sérieux pour certains qui ont même commencé à prendre des anxiolytiques pour surmonter la pression. Emmanuel Duteil, par exemple, se sent toujours très mal lorsqu'il doit affronter Eve Roger.
Ah oui, c'est comme sur un écrasé de pommes de terre.
Oui, le psy lui a filé du Temesta 8 grammes. On passera à 10 lundi si ça va pas mieux. À suivre, faillite de Thomas Cook, faillite d'Aigle Azur. Comment voyagerons-nous demain? Un exercice de prospective auquel va se livrer justement Emmanuel Duteil. Allez, ça va être une super chronique, Manu.
Ah, sauf si elle est ratée.
Mais non, allez, on passe à 10 grammes tout de suite. Ouvrez la bouche.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous aimez vous cultiver devant une soirée théma d'Arte sur la chute du 3ème Reich?
C'est fini. Fertiche, capote.
Mais vous aimez aussi la dimension compétitive d'une émission comme Fort Boyard? Ici, c'est un peu le croisement des deux, le meilleur des deux mondes grâce à la folle compétition qui oppose chaque après-midi au service de votre culture G les meilleurs journalistes d'Europe 1. Parmi eux, un être mérite notre attention. Comme vous, Bernard Werber, il est extrêmement sensible. Et hélas, sa sensibilité est mise à rude épreuve par la perfidie de sa collègue Eve Roger, qui ne manque pas une occasion de le rabasser. Si par exemple, quelqu'un marche par inadvertance sur la queue d'un chat...
On aurait dit Emmanuel Duteil.
Non, Eve, je vais vous disqualifier. Écoutons plutôt, si vous le voulez bien, l'excellent sujet, pile dans l'actualité, hein, je le signale, de notre ami Emmanuel Duteil.
Oui, je vous emmène en vacances. Alors, en tout cas, j'espère qu'on va trouver les moyens de pouvoir partir en vacances. Parce qu'aujourd'hui, avec la faillite de la compagnie Aigle Azur, la faillite d'XL Airways ou la faillite de Thomas Cook, on se demande bien comment on va réussir à partir en vacances. Alors, peut-être qu'on va regarder déjà le problème de Thomas Cook pour essayer de comprendre ce qui ne va pas aujourd'hui dans le monde du tourisme. Thomas Cook, c'est un nom qu'on connaît tous, hein, c'est le pionnier du tourisme, c'est même l'inventeur, on peut presque dire, du voyage de masse. C'est un gros tour opérateur britannique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu un énorme problème de stratégie, ça a été mal géré. Mais il y a eu surtout le Brexit, et les touristes britanniques aujourd'hui sont inquiets de partir en vacances, donc ils partent un petit peu moins. Et puis surtout, il y a un petit truc qui s'appelle Internet, qui a totalement révolutionné la façon de voyager. Tout ce qu'on en est, beaucoup à la maison, doivent aujourd'hui réserver eux-mêmes et sont devenus un peu leur propre tour opérateur. Et donc aujourd'hui, on se passe de plus en plus d'agences de voyage.
Mais ça, c'est vrai pour tous les tours opérateurs, et pourtant, ils font pas tous faillite.
Alors, c'est certain, mais ils sont quand même tous obligés de se réinventer. C'est vrai pour les compagnies aériennes, et c'est vrai également pour les tours opérateurs. Quand vous regardez les compagnies aériennes, qu'est-ce qui pose aujourd'hui problème? C'est qu'on ne paye pas assez cher notre billet d'avion. Il y a 10 ans, prendre l'avion, mais même pour aller en Tunisie, ça coûtait cher. Aujourd'hui, ça coûte moins cher d'aller en Tunisie que d'aller à Vierzon en train. Donc ça, c'est un vrai problème, puisque les compagnies sont obligées de s'adapter extrêmement rapidement au fait que l'on paye de moins en moins cher. Donc les compagnies les moins solides, c'est vrai pour beaucoup de low-cost qui croyaient
croyait que c'était mirifique de vendre des billets pas chers et qu'on allait gagner de l'argent tombe parce que ça ne marche pas. C'est vrai aussi pour XL Airways et c'est vrai pour Aigle Azur. Mais c'est vrai aussi pour les tours opérateurs. C'est-à-dire que quand vous prenez l'habitude d'aller en Tunisie à 300 ou 400 euros la semaine, bon, ben, il ne reste pas beaucoup de marge pour le tour opérateur. Donc aujourd'hui, il va falloir se réinventer. Qu'est-ce qui va fonctionner ? Il va fonctionner le fait qu'on va se débrouiller tout seul, comme des grands, on va devenir nos propres tours opérateurs pour les destinations très faciles. C'est-à-dire effectivement la Tunisie, le Maroc, on est à peu près capable de se débrouiller tout seul, de payer en ligne, etc. etc.
Ah, et en revanche, si on veut aller au Bhoutan, par exemple, pour des destinations spécialisées, ça va être...
Alors, pour aller au Bhoutan, déjà, c'est compliqué parce qu'il faut un visa touristique. Donc, c'est un pays qui fait extrêmement attention à son tourisme parce que vous avez le roi et la reine du Bhoutan, mais ça, on pourrait en reparler un autre jour, qui sont présentés comme les Kate et William de l'Himalaya.
Oui, il connaît tous les sujets. Il rebondit sur n'importe quoi. Je lui aurais dit Porto Rico, il aurait une anecdote. Quand ça, c'est Emmanuel Dutheil. Ça, c'est mon Manu.
Voilà. Donc, allez, on met de côté le roi et la reine du Bhoutan, on en reparlera un autre jour. Mais effectivement, et vous avez totalement raison, Mathieu, ce qui va fonctionner demain dans le tourisme, si je reprends mon langage économiste et moins rigolo, c'est ce qui propose de la valeur ajoutée. Donc, ça peut marcher pour des tours opérateurs. Quand vous regardez le Club Med, ils se sont complètement réinventés parce qu'ils proposent quoi ? Généralement des endroits assez géniaux et des services qui fonctionnent plutôt bien. Mais vous avez également tous les tours opérateurs qui sont beaucoup plus spécialisés sur des destinations, vous disiez le Bhoutan, et c'est ça qui va fonctionner demain. C'est-à-dire que quand nous, tout seuls, on ne sera pas capable. Je vais vous donner un exemple. Il y a un pays qui est en train de se développer aujourd'hui pour le tourisme, c'est l'Ouzbékistan. Bon, c'est pas simple de se dire, bah tiens, je vais aller là demain en Ouzbékistan, on a besoin de conseils, on a besoin de savoir où on s'arrête.
Pas sûr
besoin...
de trouver un nouveau hôtel, quoi.
Voilà, on n'est pas sûr de trouver un nouveau hôtel en Ouzbékistan, donc c'est ça qui va fonctionner demain. Il va y avoir toujours le tourisme de masse, et c'est ça qui sera le gros du tourisme. On va partir en vacances, on se débrouillera tout seul. Et il y aura donc, de l'autre côté, des ultra-spécialistes qui vont nous emmener. Parce que c'est quoi aujourd'hui le luxe du tourisme ? Pour beaucoup d'entre nous, c'est d'aller dans un endroit où personne n'est allé.
Et c'est tout
par
ce qu'on cherche,
définition, il faut bien qu'on nous aide un peu.
Bernard, vous n'aviez pas de voyage prévu avec Thomas Cook, rassurez-nous, Bernard Werber, c'est bon.
Non, mais je me dis que c'est quand même un problème, c'est qu'il y a trop d'avions dans le ciel et que ça fait de plus en plus de trous d'air. C'est-à-dire, plus il y aura d'avions dans le ciel, plus ils vont abîmer la couche de protection d'air.
Ah non,
et donc,
déjà,
il y aura de plus en plus de trous d'air. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a de plus en plus de trous d'air ?
Mais oui, j'ai remarqué qu'il y avait plus de trous d'air maintenant dans les avions. J'ai de plus en plus peur. Bon, Bernard, je ne vous remercie pas. Votre livre est quand même vachement bien. Hein. Ça s'appelle Sa Majesté des Chats. La chronique d'Emmanuel Dutheil aura-t-elle les faveurs de notre invité ? Réponse peu avant 18h.
Europe 1.
À suivre, en 2019, les ruptures amoureuses ont deux causes principales. Un, s'engueuler devant l'écran d'accueil de Netflix parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la série qu'on va regarder. Pour ça, il y a Eva Rock. Et deux, ne plus ressentir de désir sexuel après la naissance d'un enfant. Mais là encore, il y a une solution, Emmanuel Dutheil.
Tu malaxes un peu tout ça et tu la mets dans le fond.
Non, pas du tout, pas du tout. Non. Écoutez Ève Roger qui a enquêté sur le sujet sérieusement.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez L'équipe est sauvage, deux heures d'une tonitruante compétition journalistique pour booster votre culture G et redonner le goût de la win aux journalistes d'Europe 1.
J'aime me battre.
Qui vous aura offert le sujet le plus captivant ? Qui sera élu chroniqueur du jour ? Vous votez via Twitter en gardant à l'esprit que la voix de notre invité d'honneur compte triple. Aujourd'hui, c'est Bernard Werber, l'homme aux 30 millions de livres vendus qui nous accompagne. Bernard Werber, vous nous présentez votre dernier né, Sa Majesté des Chats. Comment vous présenteriez cet ouvrage à quelqu'un qui ne connaît pas l'univers Werber et qui n'a pas lu du coup le tome 1, Demain les chats ?
C'est fait pour être une distraction qui nous oblige à nous poser des questions. Mais c'est avant tout... Moi, j'écris pour procurer du plaisir au lecteur. C'est mon premier souci. C'est surtout pas de faire des jolies phrases, c'est de le surprendre.
De
tout
le captiver.
Temps surprendre, voilà. Et c'est une technique qui, malheureusement, on ne peut pas l'apprendre à l'école à surprendre. Mais...
Avec l'expérience, on y arrive.
Avec l'expérience et cette envie. C'est-à-dire, je considère que le livre est un objet de plaisir, avant tout.
Eva ?
Vous parliez de l'école. À 8 ans, vous avez écrit votre première nouvelle.
Oui.
Et vous avez un peu surpris votre professeur. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
C'était l'histoire d'une puce qui escaladait un être humain et qui découvrait sous le pantalon les poils, puis qui est tombé dans le nombril, puis arrivait finalement au sommet où il y avait des poux, et là il découvrait une peuplade sauvage au milieu de la jungle. Et le prof a dit, j'ai énormément rigolé en lisant votre copie, mais votre première phrase ne fonctionne pas, parce que cette première phrase était, je suis une puce née d'une mère pucelle et d'un père puceau. Et il m'a dit,
ça c'était
un jour,
l'influence de San Antonio, ça déjà, Frédéric.
8 ans, pas encore, mais je ne savais pas ce que c'était un puceau et une pucelle. Et il m'a dit, un jour, vous comprendrez pourquoi cette phrase ne fonctionne pas.
Alors, Bernard Werber, je crois qu'un souci de santé vous a rendu addict aux séries, parce qu'on va parler de ça maintenant.
Oui, on a découvert que j'avais un petit bouchon dans le cœur. Et donc, du coup, tous les matins, je me lève en me disant « chouette, une journée de vie supplémentaire ». Le médecin m'a dit « soit on te fait un pontage, soit tu fais du sport, 50 minutes de sport tous les jours ». Donc, je fais 50 minutes de sport tous les jours. Mais c'est hyper ennuyeux de faire du sport.
Ah, ça c'est sûr.
Surtout si vous faites genre du vélo d'appartement. Donc, j'ai mis un grand écran. J'ai installé le vélo d'appartement au milieu du salon. Et j'ai regardé des séries. Donc, tous les jours, je fais en effet un épisode. Mais il y a 200 séries par an.
Alors justement, vous ne croyez pas si bien dire, puisque selon une étude de l'université d'Oxford, on perd désormais tous en moyenne 17 minutes chaque soir à choisir ce qu'on va regarder sur nos plateformes.
Minutes.
17 minutes, c'est pas mal. Souvent, on s'engueule. Heureusement, il y a Eva Roth. Et c'est 17 minutes de gagner, Eva.
Bah, j'espère que je vais vous faire découvrir une série. Alors, je sais que vous n'aimez pas trop les séries façon Les Experts, c'est-à-dire avec une histoire par épisode. Hein. Vous préférez des fictions au long cours. Alors, je vous emmène découvrir Succession. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette série. Saison 1 et saison 2 sont disponibles sur OCS. Alors, l'histoire, elle est très simple. Logan Roy est un patriarche à la tête de Westar Royco. C'est un conglomérat médiatique. Il doit prendre sa retraite pour laisser la place à ses fils. Enfin, ça, c'est ce qui était prévu. Le vieil homme décide de changer d'avis, il va rester à la tête de son empire pendant que le reste de la famille, évidemment, va se déchirer. Alors, exemple des relations entre le père et les fils.
Pourquoi on ferait pas de l'info à tous les niveaux ?
Oui.
Je vais te le dire, Kim Jong, papa, parce que ça marche pas comme ça aux États-Unis.
En fait, tu adores dire aux gens ce qu'ils doivent penser, pas vrai ?
Me fais pas chier. Pourquoi on nous regarde ? Parce qu'on vend pas de la merde aux gens. Non, pas question de leur bourrer le crâne de patriotisme, de monospace Volvo ou de tolérance LGBT à la con.
D'un point de vue administratif, c'est horrible. Entre la justice, le FCC et les lois antitrust, on serait emmerdé pendant des années.
Non, la télé, ça devient n'importe quoi. Il faut que ça change.
Alors dit comme ça, on pourrait croire une version moderne de Dallas, un truc de famille, mais alors pas du tout, c'est absolument jubilatoire. Parce qu'en fait, chaque protagoniste est détestable à souhait et en même temps très attachant. Il n'y a que des coups bas, des petites mesquineries, des flots d'insultes, comme vous venez un peu d'entendre avec le père, autre trahison, mais avec une part de comédie qui va pouvoir sans doute vous faire hurler de rire devant votre écran, notamment parce que tous les personnages font preuve à un moment donné d'une bêtise crasse. Je n'ai jamais vu ça, mais moi ça me fait énormément rire. Et Dieu sait si je m'y connais, en bêtise crasse. Merci de travailler avec vous tous les jours, forcément.
Mais je vous aime.
Voilà. Série d'autant plus réussie, en fait, vous le verrez que derrière ce théâtre humain, ce sont bien les questions encore de pouvoir, et ça m'a rappelé votre livre, de la propriété, de l'hérédité, mais aussi des méfaits de l'ambition qui sont abordés. J'ai eu un coup de cœur pour ces deux saisons, Succession, à voir sur OCS ou à acheter en VOD si vous n'êtes pas abonné à OCS.
Bernard Herbert,
Kim Jong Papa, j'ai retenu.
Kim Jong Papa.
Voilà, une punchline forte. Merci, 17 minutes de gagner, c'était Eva Roch.
Europe 1.
Maintenant que nous savons quoi regarder ce soir à la télé grâce à Eva, nous allons pouvoir aborder des questions plus essentielles, vertigineuses. À savoir, comment faire pour ne pas se séparer après la naissance d'un enfant ? Il est 3h18 du matin, c'est l'heure du 17e biberon et c'est la question de trop, le fameux « t'y vas, stop ». Ève Roger a enquêté sur ce phénomène de la séparation après la naissance du premier enfant et on peut lui faire confiance car Ève a deux spécialités.
Internet et YouPorn.
Non, non, le journalisme et les faits de société, on avait dit, c'est ça dans votre contrat. À tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1 et si vous tombez sur notre émission par hasard, si vous n'en connaissez même pas le concept, Eva, qu'est-ce que vous diriez aux auditeurs pour leur faire saisir la dimension à la fois culturelle, rieuse et moderne surtout de l'équipe est sauvage.
Viens, viens, viens.
Oh, fou ! Modernité, quand il nous tient.
C'est ouais. Efficace. C'est
bienvenue, efficace. L'équipe est sauvage continue. Quatre journalistes en compétition au service de votre culture G. Un seul décrochera le titre de chroniqueur du jour tout à l'heure sous l'œil de notre invité arbitre Bernard Werber, dont on fête la sortie du nouveau roman. Ça s'appelle « Sa Majesté des Chats ». On continue d'en parler, mais Bernard, c'est l'heure, je crois, d'un avertissement. Un ami proche me demandait récemment, avec ce tact que seuls les amis proches peuvent avoir, « Mais Mathieu, ton émission, là, c'est possible de l'écouter avec des enfants ?» J'ai dit « Oui, toutes, sauf les jours où il y a Ève Roger dans l'équipe. » Et a fortiori, les jours où, comme avant-hier, il y a Ève Roger et André Manoukian en même temps. Là, mettez plutôt les enfants devant un bol de Chocapic. Pour ceux qui étaient présents malgré tout, je présente mes excuses. Et à la question « Comment on en est arrivé avec cette question ?»
André aura le même argent, mais son sperme sera vendu plus cher.
Mais non.
Vous avez un très bon sperme, il est vendu plus cher qu'un sperme un peu moins mobile.
Mais comment vous savez ?
Je n'ai aucune réponse et je me décharge de toute responsabilité si j'ose la formule. Pardon. Donc là, clairement, choc à pic pour tout le monde, car Ève Roger arrive. Mais avec un sujet sérieux aujourd'hui, Ève.
Tous mes sujets sont sérieux.
Oui, c'est vrai. Certains plus que d'autres quand même. Vous nous parlez de la période la plus dangereuse pour les jeunes couples.
Et alors, je commence avec deux chiffres. 100% des couples connaissent des turbulences au moment de l'arrivée du premier enfant. Ça, c'est une évidence. Mais 20% des couples divorcent 4 à 5 ans après le mariage. Donc, c'est un couple sur 5. Alors, pour illustrer mon propos, je vais vous raconter l'histoire de Sylvain et Clarence. C'est des jeunes trentenaires. Ils sont chefs d'entreprise tous les deux. Elle veut un enfant, mais lui, il ne veut pas parce qu'il mène une vie comme il l'entend. Beaucoup de sorties, beaucoup
d'amis, beaucoup de vacances. Alors pour le convaincre, elle lui propose de signer un contrat avant même de concevoir l'enfant, qui lui garantira le fait de continuer à mener la vie qu'il aime. Alors ils se mettent autour d'une table.
Ça peut pas marcher cette histoire.
Et, alors écoutez, mais vous allez voir, c'est spectaculaire. Ils rédigent un pacte dont ils ont fait un livre qui s'appelle « Le pacte des futurs parents ». Tout y passe, l'allaitement, la place des beaux-parents, le mode de garde. Moi j'ai choisi les trois moments les plus épineux de ce couple quand un bébé arrive. Et on commence, vous l'avez déjà dit, les nuits.
Les nuits.
Alors quand le bébé pleure, qui doit se lever? Moi j'avais une amie qui disait « Toutes les nuits tu divorces, tous les matins tu te remaries. » Sauf que tu ne sais pas. Alors Sylvain et Clarence, ils ont choisi une formule assez banale qui est « Chacun son tour ». Mais ils racontent l'histoire de deux copains qui ont choisi un système qui est machiavélique. C'est tirer au sort celui qui se lève à l'aide d'une sorte de roue de la fortune, plutôt de l'infortune. À chaque fois que le bébé pleure, ils font tourner la roue. Écoutez Sylvain.
Ah, c'est un vrai truc qu'il avait construit lui-même en bois. C'était magique. Sauf que ce qui est drôle, c'est que celui qui se levait plus, on voulait comme à celui qui avait eu de la chance le lendemain. Du coup, pour le deuxième, ils se levaient tous les deux en disant « Quitte à ce qu'il y en ait un qui fasse rien, au moins on sera tous les deux fatigués, donc on ne pourra pas en vouloir à l'autre. »
Je ne sais pas ce qui est le pire, se lever tous les deux, ça me semble aussi complètement fou, quoi. Alors ensuite, vous l'avez dit aussi, deuxième moment le plus épineux, c'est la vie sexuelle. Alors toujours autour d'une table, Sylvain et Clarence, eh bien, ils ont discuté, vous allez l'entendre, ils n'ont rien laissé au hasard.
Pendant la grossesse, qu'est-ce qu'on fait? Parce que tout n'est pas si simple, ça ne se passe pas toujours comme on l'imagine. Il n'y a pas que la pénétration, il y a plein d'autres choses à imaginer. Mais c'est surtout la reprise après. Et du coup, dans notre pacte, on a parlé d'un minimum hygiénique.
Alors, le minimum hygiénique. Il a fallu que j'arrache à Sylvain ce que c'est que ce minimum hygiénique. J'ai réussi. C'est une fois tous les 8 jours. Le problème, c'est comment on fait appliquer le pacte?
On ne vient pas avec le pacte dans la chambre en disant « Eh oh, ça fait 8 jours, on avait dit que c'est minimum 8 jours ». Non, on fait un peu l'effort d'avoir moins mal à la tête, d'être moins fatigué. C'est les 30 premières secondes où on n'a pas envie de faire l'effort. Parce qu'au final, c'est toujours génial de faire l'amour.
Ah bah oui, c'est quand même une bonne conclusion. Puis enfin, un dernier point pour sauver le jeune couple du désastre, c'est passer du temps à deux, vous savez, sans bébé. Et là, j'ai découvert la méthode 2-2-2. Un soir toutes les 2 semaines, un week-end tous les 2 mois, une semaine de vacances tous les 2 ans. Donc vous en souvenez? Alors après, évidemment, ça peut s'adapter, mais c'est quand même une base qu'il faut avoir.
Mais c'est vous
du temps.
L'avez inventé, là?
Non, c'est une méthode qui existe. Bref, pour passer au mieux cette période difficile, je vais terminer avec une citation de Jacques Chirac, puisqu'on est obligé, qui cite lui-même sa grand-mère. Alors écoutez bien, parce que moi j'adore cette citation. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Les hauts, on les méprise. Les bas, on les reprise.
Waouh ! Bravo, Roger. Mais néanmoins, vous n'y couperez pas. Voici la question vache de l'autre chroniqueur, Emmanuel Duteil. Depuis le temps que vous rêvez de faire tomber Eve de son piédestal, c'est le moment. Lâchez-vous.
Il ne faut pas que je sois trop méchant, parce que je suis obligé de reconnaître que sa chronique était passionnante. Donc
vous commencez mal.
Mais ils sont toujours en couple, Sylvain et Clarence ?
Sylvain et Clarence, ils sont en couple. Ils ont une petite fille qui s'appelle Loni, qui a 18 mois. Et là, ils vont faire une V2 du pacte. C'est ce qu'ils vont expliquer.
Ils ne sont pas cons du tout. Hein.
Ah non, ils sont...
Ça vous plaît ?
Oui. C'est vraiment une bonne idée, parce que la plupart des gens partent à la bataille sans à la
veuve.
Et après, au fur et à mesure que les problèmes apparaissent, ils disent « Ah ben zut, on n'avait pas vu voir. On n'avait pas vu venir. »
Imaginez que la relation amoureuse est rationnelle, alors que logiquement, c'est tout l'inverse de la rationalité.
Oui, mais c'est vrai que
moi, je trouve ça totalement triste. Ça enlève tout.
C'est triste, je suis partagé sur le sujet. C'est vrai qu'en même temps, ça peut être ingénieux, parce que
on
désamorce
à l'avance.
On ne pourra pas régler les problèmes en les ayant prévus à l'avance.
Non, tu ne peux pas régler les problèmes au jour le jour quand c'est la panique, quand tu dors plus la nuit, quand tu es fatigué, tout ça, c'est plus possible.
Bah oui. Donc Bernard Werber, je sens que Bernard Werber a bien aimé cette chronique.
Bah moi aussi,
oui,
je le reconnais.
Je me rappelle une fois, j'avais amené mon enfant chez le pédiatre. Et le pédiatre me dit « Vous avez le courage de faire des enfants, parce que je sais que dans 2 ans, vous serez séparés. » Et il m'a regardé parce que lui-même venait de se séparer. Et il m'a dit « De toute façon, tous mes clients, je le sais, ils font le gosse, ils se séparent après. Oh, c'est la règle, c'est la nouvelle règle. »
Mais vous lui avez donné tort?
Non.
Non.
C'était une prophétie.
C'est une prophétie. La reine Roger conservera-t-elle la 2e place du classement Europe 1 des meilleurs journalistes? La réponse est imminente.
Europe 1.
Je vous connais comme si vous étiez tous sortis de moi, chers auditeurs.
C'est dégueulasse, votre histoire.
Certes, disons plutôt alors que je lis en vous comme dans un livre ouvert, si vous préférez. Vous êtes actuellement à un feu rouge, vous chantez du Goldman en articulant correctement seulement les fins de phrases.
Vraie malchance, j'en ai mes droits.
N'y va pas.
Vous faites des projets constructifs basés sur l'estimation des gains. Taisez-vous, Eva. Vous faites des projets constructifs basés sur l'estimation des gains que vont vous rapporter les 2 grilles d'euro-million que vous venez de jouer au balto, quand soudain... Vous réalisez que vous n'avez pas fait les courses et que votre dîner de ce soir va se résumer à de la purée mousseline sans lait, de la poudre crue en somme. Pas de panique, c'est une panico. Deli in extremis arrive. La rubrique qui vous sauve la mise avec une recette facile, inventive et économique. En cette fin de mois, c'est pas négligeable. A tout de suite.
L'équipée sauvage sur Europe 1. L'émission que vous ne manquerez sous aucun prétexte.
Ah non, 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 non.
16h, 18h, Mathieu Noël.
On embrasse Geneviève, la mère des baroques, pour ce jingle. Vous écoutez Europe 1, l'équipée sauvage continue. 2 heures pour rire et découvrir en compagnie d'un invité à la curiosité légendaire. Les fourmis, les thanatonautes, nous les dieux, ces livres ont marqué notre vie. Si vous ne l'avez jamais lu, découvrez vite son dernier roman, Sa Majesté des Chats. Bernard Werber est avec nous cet après-midi. Alors Bernard, les chats, c'est une fascination chez vous, puisqu'en plus du livre, vous serez le 4 octobre prochain, le maître de cérémonie de la fête des chats au Grand Rex. Alors ici, on n'a pas de tabou. Emmanuel, ici présent, nous a déjà reçu chez lui en toge romaine coiffée d'une couronne de laurier pour des soirées, disons, thématiques.
On va se faire une jolie petite partie.
Oui, 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 ça reste entre nous. Hein, ça, c'est
je vous donne bientôt la date de la prochaine.
Mais là, on a hâte. Mais là, une fête des chats, à quoi faut-il s'attendre ?
C'est un peu innovant, donc je ne sais pas moi-même exactement. L'idée, c'est j'en ai parlé à mon éditeur, j'ai dit, ça, il y avait un Woodstock de l'époque antique, c'était en 1500 avant Jésus-Christ, 1 300 000 personnes venaient dans le temple de Bubastis, Bast étant comme Bastet, la déesse femme à tête de chat, et c'était en effet alcool, danse, sexualité, défoulement, le tout déguisé en chat, autour du culte des chats,
il
avec des chats tout autour. Et il m'a dit, chiche, on va essayer de refaire quelque chose dans cet esprit-là. Bon, en effet, ça ne va pas aller aussi loin que la fête de Bubastis.
Dommage.
Et donc, on fait cette grande fête de 2 heures dédiée aux chats, dans laquelle on va voir des comiques, dans laquelle on va voir des lolcats, dans laquelle on va voir des gens déguisés en chats, dans laquelle il va y avoir des spécialistes des chats qui vont nous expliquer comment fonctionnent les chats, et dans laquelle je vais raconter aussi l'histoire des chats depuis le début de l'humanité.
Mais est-ce que le public pourra venir avec son chat ?
Alors non.
Non.
Mais il va y avoir des chats sur place, par contre. C'est des chats de race extraordinaire qui vont être présentés. Oh. Mais on y a pensé. Mais ça sera quand on fera la version hard, dans laquelle il y aura et de la sexualité et des chats. Mais pour l'instant,
mais
c'est la version bêta.
Quand même, hein. On pourra amener son chat stérilisé. Et Maroc.
Ce sera donc le 4 octobre au Grand Rex. Vous serez le maître de cérémonie, Bernard Werber. Et puis, vous serez bien entouré, parce qu'il y aura Éric Antoine, le magicien qu'on connaît bien pour ses prestations aussi à la télé, le groupe Dionysos, Bruno Salomon qu'on a reçu ici, le comédien humoriste, Philippe Geluck, auteur du chat, bien évidemment.
Il y a tous les plus grands spécialistes mondiaux des chats.
Jean-Yves Gaucher qui est vétérinaire, inventeur de la ronron-thérapie dont vous nous parliez en début d'émission, et puis Laetitia Barlerin qui est vétérinaire aussi, animatrice sur TF1 dans l'émission La vie secrète des chats, et Céline, l'humoriste, évidemment, qui sera avec vous au Grand Rex le 4 octobre.
Mais vous avez réussi à l'articuler et pour ça je vous dis bravo. Eva, vous avez lu pour nous Sa Majesté des Chats.
Oui.
Qu'est-ce que vous en avez retiré ?
Un chat te juge, un chien te fait la fête.
Merci. Son nouveau roman, Sa Majesté des Chats, vient de sortir. C'est vrai.
C'est vrai,
Bernard Werber est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
Alors que le dénouement approche, il est temps de se recentrer sur l'essentiel, la bouffe. Si, comme nos invités, vous ne pensez qu'à ça, c'est Sylvie Testu.
Pierre Londouillette. Rien qu'à regarder.
Réjouissez-vous car Délice in Extremis arrive, la recette de dernière minute qui vous sauve la mise, puisque je commence à vous connaître, vous avez encore complètement oublié de faire les courses pour ce soir. Oui, mais vous êtes vraiment incorrigible.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
L'équipée sauvage continue, une émission qui pense à nourrir votre cerveau, mais aussi votre estomac. Comme Eva Rock, vous avez quelques lacunes en cuisine et quand vous préparez un gâteau au chocolat, ça donne ça.
Franchement, ça n'a pas trop de goût, c'est assez filandreux, ça ressemble un peu à du crabe.
Vous avez besoin d'être aidé, c'est important, surtout si vous avez le malheur de vivre avec un conjoint irascible et tyrannique qui a faim tout le temps.
Un deuxième petit café serait bien, et j'ai vu qu'il y avait des Oreo cookies. Cessez de rire bêtement, besoin de me nourrir, un être humain, pas seulement une star.
Mais qui peut bien être cet affreux goujat ? C'est fou les cons qu'il y a quand même dans la nature. Bref, il faut d'urgence une recette simple et rapide. Olivier Pouls, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Aujourd'hui dans Délices in Extremis, vous ne ménagez pas les végétaliens puisque Olivier, vous nous préparez un tartare de veau.
Je vous prépare un tartare de veau et j'ai failli vous préparer un tartare de fourmis en l'honneur de Bernard Werber.
Mais je crois que ça se mange les fourmis,
mais
non ?
J'en ai mangé déjà. Est-ce que vous fourmis. En avez goûté ?
Alors on me l'a souvent proposé. Je considère que manger mes personnages n'est pas une finalité de la vie. Je ne mange pas tout ce qui est dans mes livres, mais maintenant je suis pratiquement devenu végétarien.
Ouais, alors moi j'en ai mangé en Chine, figurez-vous. Et c'est très acide, d'ailleurs l'acide formique est connu. Oui, c'est
un petit goût de citron.
Voilà, et ça sert souvent de condiment d'ailleurs.
Il y a aussi les fourmis à miel qu'on trouve en Afrique qui ont un abdomen hypertrophié et c'est comme des petits bonbons.
Ah, voilà. C'est sucré quand même.
Ah oui, c'est très sucré.
Oh, c'est les fourmis à miel.
En fait, c'est comme les abeilles qui produisent du miel. Les fourmis produisent du miel là et c'est très bon. C'est orange. transparent.
Eh bien, on goûtera à l'occasion, Pouls. Ouais. Comme notre invité est presque végétarien, vous avez choisi comme recette aujourd'hui le tartare de veau.
Bah, bien sûr, tant qu'à faire, peut-être je vais le réconcilier avec la viande. Quand on pense au tartare de viande, en général, on commande ou on pense à un tartare de bœuf. Oui. Mais le veau est une pièce qui marche extrêmement bien en tartare. Et le morceau que je vous conseille de choisir, c'est l'onglet. C'est pas toujours facile à trouver, mais je trouve qu'il y a dans l'onglet une texture pour le tartare, surtout quand on le fait dans les règles de l'art, c'est-à-dire au couteau. Un tartare, on ne le fait jamais hacher à la machine, on le découpe parce que ça va donner plus de mâche, ça va donner plus de structure et plus de goût. Donc l'onglet, on va le découper dans l'essence des fibres pour commencer. Et ensuite, on va croiser des petits morceaux d'environ 0,5 cm de côté. Ce tartare de veau, il faut l'agrémenter, mais l'agrémenter de manière assez subtile, moins marquée qu'un tartare de bœuf. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est huile d'olive, un petit peu de moutarde. Et puis, si vous aimez le côté iodé, c'est hacher une huître. Une huître dans votre tartare de veau, ça va la saler, ça va donner un petit côté iodé. Ça ne va pas être trop marqué, mais ça va vraiment révéler la viande. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Sel, poivre, et il n'y a pas grand-chose d'autre à faire parce qu'on va respecter justement cette viande de veau.
Mais en combien de temps on effectue cette recette?
Ah non, mais franchement, il y en a pour même pas 10 minutes parce que le temps de découper
votre veau... Moi, un tartare de veau, j'aurais pensé que ça prenait beaucoup de temps.
De hacher une huître en tout petit, sel, poivre, et puis je vous dis, une petite cuillère de moutarde, un petit peu d'huile d'olive, et je vous garantis qu'il y a un effet assez spectaculaire.
Mais l'huître, on la coupe.
Ah oui, on la coupe en tout petits morceaux. Elle va vraiment servir de condiment. On va à peine la déguster, enfin, on va à peine la goûter en fait dans le tartare.
Vous savez, Olivier, que le week-end, il teste vos recettes, nos chroniqueurs.
Ben, j'espère bien.
Je ne sais pas s'ils les réussissent, mais ils les testent.
Ben, il faudra en tout cas qu'ils m'envoient les photos, que je puisse les valider, voire qu'ils m'invitent.
Oui, ça serait encore mieux.
Il y a une soirée toge là qui est prévue.
Merci Olivier Pouls, qu'on retrouve chaque samedi dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1. Sa Majesté des Chats chez Albin Michel, c'est son tout dernier roman qui vient de sortir. Bernard Werber est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
L'équipée sauvage touche à sa fin. 2 heures d'une implacable compétition opposant dans une sorte de pogo géant les meilleurs journalistes d'Europe 1. Un seul sera élu chroniqueur du jour. Un seul partira en week-end auréolé d'une gloire éternelle qui durera au moins jusqu'à lundi. Car oui, mes agneaux.
Aujourd'hui, c'est vendredi.
Vous touchez du doigt le week-end, repos, balade en famille, lecture sous la couette.
Et beaucoup de sexe.
Oui, après, chacun fait comme il veut. Ne parlez pas encore de cette soirée toge qui nous attend. On ne juge pas. À tout de suite.
L'équipée sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
C'est un moment qui n'est pas sans rappeler les quelques secondes qui précèdent l'orgasme. Où votre partenaire s'écrie
« Viens, viens, viens !»
Quel sujet avez-vous préféré aujourd'hui? Les livres cultes de l'adolescence? Comment donner son nom à une étoile? Comment voyagerons-nous demain? Ou encore, comment ne pas se séparer après la naissance d'un enfant? Lequel de nos concurrents a-t-il fait forte impression à notre invité? Au contraire, lequel ne s'est pas foulé et aurait eu droit à une critique acerbe de la part de notre invité de mercredi, André Manoukian?
Vous ne chantez pas assez avec votre anus.
Découvrons d'abord... André est un peu particulier. Découvrons d'abord qui vous avez choisi. Eva Rock, dévoilons le vote du public.
À 37%, ils ont voté pour Emmanuel Dutheil.
Oh, oui. Emmanuel Dutheil.
Et comment
je suis toujours
on va voyager
mais ça ne s'arrête plus.
Je pense qu'aux vacances.
Oui, ça doit être
et
ça.
Oui, comment on va voyager dans le futur? Eh bien, grâce à vous, oh, voilà, vous avez rapporté 2 points. Exactement.
Il embrasse son public. 2 points pour Emmanuel. Alors, moi, je n'ai pas réfléchi. Comme d'habitude, je me trouve dépourvu au moment de choisir. Je vais choisir à Yves Roger. Je choisis Yves Roger, je lui donne mon point. Peut-être parce que ce sujet était concernant pour moi. Rappelons le sujet. Était comment ne pas se séparer après avoir fait un enfant. Mais vous le savez, ici, c'est l'invité qui tranche. Bernard Werber, vous êtes venu nous présenter votre dernier roman, Sa Majesté des Chats, publié chez Albin Michel. Votre voix compte triple. Alors attention, selon vous, qui mérite d'être élu chroniqueur du jour?
Alors d'abord, je dois avouer que les sujets, en général, étaient plutôt vraiment passionnants. Je me sentais concerné, j'ai écouté ça, j'ai appris des choses. Donc évidemment, le choix est difficile. Cependant, je fixerai mon choix en fonction de ma profession et du fait qu'il y a une référence à mon idole qui est Boris Vian. Et Boris Vian est un auteur qui me fascine et que j'adore.
Nicolas Caro. Et donc, le grand gagnant du jour, je me permets, je ne mets pas en cause votre choix, Bernard Werber, mais je me permets de signaler ce qui peut ressembler à de la corruption aujourd'hui, puisque je révèle au public que l'attaché de presse de Bernard Werber n'est autre que la femme de Nicolas Caro.
C'est du sexisme.
C'est ce qui s'appelle un conflit d'intérêt. C'est ce qui s'appelle un conflit d'intérêt, Nicolas. Néanmoins,
je prends les 3 points quand même.
Vous prenez les 3 points.
J'aurais quand même choisi Nicolas, s'il n'y avait pas ce petit détail qui, malgré tout, en effet, a peut-être penché un peu dans la balance. Et je dois avouer qu'Aurélie, sa femme, est formidable. C'est une attachée de presse extraordinaire que j'apprécie beaucoup.
Nous l'embrassons au passage. Et oui, mesdames et messieurs, c'est donc Nicolas Carreau qui remporte la 25e édition de l'équipée sauvage. On remercie Bernard Werber d'avoir joué le jeu durant ces deux heures. Merci beaucoup, Bernard, d'avoir été avec nous. Merci également à la Dream Team de la rédaction d'Europe 1, Eva Roque, Eve Roger, Alain Sirou, Emmanuel Duteil et Nicolas Carreau. Merci aussi à mon merveilleux Sébastien Bordenave, c'est vrai, qui prépare avec moi toute cette émission. L'équipée sauvage revient demain 16h, car vous nous...
Non, lundi. Mais ben, c'est comme vous voulez.
Eva, si, je sais ce que je dis. On est rediffusé le week-end. Donc oui, l'équipée sauvage revient demain 16h, car vous nous retrouvez aussi le week-end. Et d'ailleurs, Eva, les émissions sont toutes disponibles à la demande.
Elles sont toutes podcastables.
Elles sont podcastables. Tout de suite, place à l'info sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Mathieu et bonsoir à tous. On vous retrouve, hein, vous l'avez dit, même le week-end. Merci à vous.